Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La plante du diable. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Et s'il aime trop Alexis, je voudrais dire qu'il n'est pas comme les autres et il en a honte. Non, il aime mieux se croire comme les autres parce que c'est mieux d'être comme les autres, comme tout le monde. Même pas Alexis qui lui sûrement n'accepterait pas une amitié trop forte et particulière. Tu es tourmenté. Il a peur de perdre son ami et a peur de vouloir trop l'avoir à lui. Je dis que c'est sûrement la fin de quelque chose, la fin d'une époque. Ils étaient très bien tous les deux, très intimes. Ils ne seront plus jamais maintenant. Parce qu'il y aura la fille qui va devenir la moitié de son âme. Il lui dira tout, feront tout ensemble, et lui, Mathieu, sera le pauvre ami qui est seul et que l'on reçoit par amitié, pitié. Pauvre Mathieu. Et dire qu'il est obligé de cacher ce qu'il ressent, pense. Qu'il fasse celui qui est heureux que son ami ait une amie. Les jours passent. Les deux jeunes gens continuent à s'écrire. À Paris, Alexis et son ami sont bien notés. Le travail leur plaît. Un jour, le directeur des relations humaines reçoit une lettre de la direction du groupe Pontoise, dont ils dépendent, leur disant qu'il faut que les deux jeunes gens puissent poursuivre leurs études pour être plus aptes à devenir des hautes cordes. Il faut leur donner des cours de biotechnique plus poussés et des cours de gestion d'entreprise. Le directeur des relations humaines prévient le directeur de l'entreprise de Versailles et lui dit que la direction générale a décidé de donner des cours à ces deux jeunes gens pour qu'ils deviennent des cadres à haut niveau. Les deux jeunes gens sont convoqués au siège. On leur dit qu'ils doivent suivre des cours sur Internet. C'est un ordre, ils sont obligés d'accepter. Et si se dit, ça permettra d'accéder plus vite, avoir de l'avancement. Alors chaque soir, après leur travail, ils étudient sur Internet. L'entreprise leur a donné une prime pour qu'ils achètent un ordinateur et un abonnement pour leurs cours qui est gratuit. Leurs parents sont fiers d'eux. Florence décide d'écrire à son père pour lui dire qu'elle aime toujours Alexis. Le père est furieux. Il se sent coincé entre sa fille et les francs blancs, qui aussi veulent aider les jeunes gens. Il se demande bien pourquoi. Comment Alexis a-t-il pu connaître le fils franc blanc? Peut-être dans une de ces horribles parties raves au fond de la France profonde, dans un champ boueux entouré de cochons et de poules. Peut-être Alexis et le jeune franc blanc ont pris de la drogue. Il a l'air bien mignon sur les photos de Voici et de Match, mais on ne voit presque rien. Les jeunes semblent souvent à des anges, et ça n'en est pas. Le père a peut-être peur qu'Alexis dévoile les nuits blanches de son fils. Ça ferait mal vu, tache sur sa réputation. Lui qui peut se marier même avec des têtes couronnées. Une princesse qui se marie avec un drogué raveur, ça ne se fait pas. Pense à tout ça, le pauvre père. Il est, comme tous les pères, à peur de perdre sa pauvre fille. La pauvre fille chérie, c'est normal. Et où irait l'argent, le groupe? Il décide, c'est d'arrondir les angles, d'écrire à sa fille qu'elle est encore bien jeune, qu'elle peut attendre, qu'elle a le temps de se mettre avec un garçon. Elle doit profiter de sa jeunesse et s'amuser un peu. Des jeunes gens, il y en a beaucoup. Malheureusement, Florence tient bon et continue à écrire à Alexis. Le père apprend que sa fille continue à écrire à Alexis, il est furieux, mais il sait que faire. Je pourrais les mettre à la porte, les faire disparaître. Des hommes en noir pourraient rentrer dans son immeuble et hop, la chose serait faite. Mais je ne peux pas le faire, à cause de ses francs blancs. Et pourquoi tiennent-ils tellement à lui? Est-ce un coup monté pour me nuire, me prendre par l'intermédiaire de ma fille? Avec lui, pour s'emparer de mon groupe? Ça s'est déjà vu. Ils sont capables de tout. On dit des choses bizarres sur eux. Certains disent que c'est une secte, ou quelque chose comme ça. Ça ne m'étonnerait pas. Et puis, le père, un simple maçon, qui devient l'homme le plus puissant du monde, c'est louche tout de même, non? Oui, je sais, ce n'est pas le père, mais le grand-père. Lui, le père, était contremaître, mais tout de même. Sa fille, en Floride, est invitée à de nombreuses soirées. Il faut la distraire et qu'elle voie le plus de monde possible. C'est le père qui en a donné l'ordre. soirée où elle est invitée chez une riche américaine qui a été actrice et maintenant est créatrice de bijoux et de parfums. La soirée se passe dans son domaine, au bord de la piscine. Il y a orchestre, buffet, etc. La piscine se trouve à côté d'une belle villa toute blanche, style 19e siècle de luxe. Il y a du monde à cette soirée. Des gens du cinéma, des chanteurs, des pilotes et de la publicité, etc. Tout le monde est habillé en tenue de soirée. Tout le monde est habillé en tenue de soirée. Robe du soir multicolore. Florence a une robe blanche. Les amis où elle habite la présentent à l'hôtesse. C'est une femme assez forte, cheveux châtains sombres, yeux bleus profonds. Elle porte une robe de soirée rouge avec des filets or. Elle a un grand décolleté qui montre des seins qui ne sont pas de la première jeunesse. Elle est fardée d'une façon vulgaire et a de gros bijoux en or. Le midi, Elisabeth, je vous présente les petites françaises, Florence. Enchantée, dit Elisabeth. Nous avons justement deux Français, Esqui. Ils vont vous tenir compagnie, comme ça vous vous sentirez moins seul. Venez. Florence suit cette femme. L'homme les laisse. Elle est même devant deux jeunes gens qui ont à peu près 18 ans, peut-être moins. Ils sont très beaux tous les deux. Ils évêquent leur vie. Je vous présente Frédéric et Gilles. Ils sont français. Et je vous présente Florence. Il faut la distraire un peu, je lui dis. Nous allons nous en occuper, madame. Elle lui fait. Bon, eh bien, je vous laisse. Elle les laisse. Je lui demande. Alors, on est française? Elle lui dit. Oui, de Paris. Nous aussi. Vous êtes en vacances? Oui. Nous aussi, Frédéric lui demande. Vous êtes venu seul? Oui, et je vis chez des amis de mon père. Que fait votre père? Il est industriel. Il fait partie du groupe Pontoise qui fait partie du groupe Tremblant. Je lui dis. Comme c'est étrange, notre famille fait aussi partie de ce groupe. Je regarde Frédéric et lui dit. Fais danser, mademoiselle. Frédéric lui dit. Tu crois? Ce serait mieux si c'était toi. Non, à toi, mon vieux. La jeune fille est gênée. J'ai pas vraiment envie de danser. Je lui dis, il sait très bien danser, vous savez. Allez, montre-lui. Frédéric lui dit. Ça, c'est toi qui l'aura voulu. Il va vers Florence et lui demande. Vous voulez danser? Elle lui dit. Puisqu'on me dit que vous êtes un très bon danseur, je veux bien. Et il l'emmène danser. Il ne sait pas pourquoi, mais il se sent troublé par ce jeune homme. Il a une beauté étrange. Dans l'ensemble, lorsqu'il la regarde, elle se sent toute retournée. Elle a peur. Peur de quoi? D'elle? De se perdre dans ce beau visage? Et de ne plus retrouver son Alexis, elle en a honte, mais ne peut s'empêcher d'être attirée par ce jeune homme étrangement beau. l'ami aussi l'est. L'ami d'Alexis aussi. Et se sent tout d'un coup prise de vertige et entourée, submergée de beaux jeunes gens. On se dit qu'il y a trop de beaux jeunes gens dans cette histoire. Et si son père avait raison, que des garçons, il y en a des tas, et qu'elle devrait profiter de sa jeunesse. Elle en a le vertige. Elle est comme une jeune fille qui se plonge dans le monde de la débauche. La voix troublée,
c'était un plaisir, mais...
et la sent à sa merci. Et une bande, qu'avez-vous? Elle lui dit, rien, j'ai un peu chaud. Et lui dit, si vous voulez, on peut aller se promener sur la plage, il fera plus frais. Et lui demande, seul. Il lui dit, oui, ou si vous voulez que Gilles vienne avec nous.
Il essayait d'avaler toute une vache.
Elle lui dit, je ne sais pas. Il lui dit, bien venez. Elle prend par le bras et l'emmène. Gilles les voit s'éloigner. Il quitte la propriété. La maîtresse de maison les voit partir. Mais comme elle a reçu des instructions pour qu'elle s'amuse un peu, pour oublier une peine de corps, elle connaît ça. Alors, elle la laisse partir avec ce beau français et se dit qu'il n'y a que les Français qui savent aller vite avec une fille. Frédéric l'amène vers une voiture décapotable rouge. Il lui dit, on nous l'a prêté sans même savoir si on a le permis et si on a l'âge. Elle lui demande, vous l'avez? Il lui dit, vous avez peur? Elle lui dit, non, jamais. Il ouvre la portière avant et lui dit, eh bien, entrez. Elle entre dans la voiture. Lui aussi. Tout d'un coup, la cour Gilles. Saute sur le siège avant et leur dit, lâcheur. Et Frédéric met la voiture en route. La conduit comme je l'ai appris. Alors Frédéric sort de sa poche un foulard de soie blanc et se le met autour des oies, tout autour des yeux, tout en conduisant. Florence, effrayée, lui demande, mais qu'est-ce que vous faites? Gilles rit. Elle crie, mais il va nous tuer. Je lui dis, pas si vous lui indiquez ce qu'il doit faire. Allez-y, dites à droite, à gauche, freiner, etc. Et il le fera. Allez vite, parce que il va y avoir des virages, et si vous ne le faites pas, nous risquons tous de mourir. Effrayée, elle commence à faire ce qu'il lui dit. À droite, là, non, à gauche, plus doucement, attention, il y a une voiture en face de vous. Devant vous, tournez! Frédéric demande où? Elle lui dit, je ne sais plus, à droite! Gilles rit de la voir, de voir la fille qui a peur, et toute blanche, tremble de tous ses membres. Elle aimerait que ça s'arrête, elle en a assez de cette course folle. On dépasse les voitures, il y a des virages partout, au long d'une falaise. Oh, tout ça! Elle se dit, c'est Dieu qui me punit, parce que j'ai eu un faible et même mal pensé. J'ai failli. Oui, j'ai eu des mauvaises pensées. J'ai failli trahir Alexis. Et trouver bon ces deux fous furieux. Et hurler, crier au secours, et ce con qui crie derrière, qui rit comme un fou. Il est heureux de la voir dans tous ses états. Mais si elle rate, si elle donne une mauvaise indication, nous allons mourir. Et lui aussi, peut-être que ça lui fait rien à ce Gilles de mourir. Ce doit être un dingue. Enfin, elle a réussi à faire freiner la voiture au bord de la plage. Elle a envie de pleurer. Frédéric enlève son bandeau. Gilles lui dit, voyez, vous y êtes arrivé. Elle ne dit rien. Sorte de voiture, elle ne bouge pas. Frédéric lui dit, sortez, ne n'est pas resté là. Il ouvre la portière, elle sort. Les jambes ne la tiennent pas. Gilles dit à Frédéric, tu vois, ça va pas être difficile de la violer. Elle ne tient pas debout. Elle panique et se dit, il serait bien capable de le faire. Elle regarde autour d'elle, seule avec ses deux fous. Je suis perdue. Elle leur dit, mais pour me faire de mal. Je lui dis, paraît que l'on ressent un certain plaisir à la fin. Je lui dis, ne vous faites pas de soucis. Vous ne serez pas déshonoré. Pour éviter la honte à la jeune fille, on la tue toujours après le viol. Et lui dit, plaisantez. Il lui dit, oui, c'est une plaisanterie pour des gens comme nous, vous comprenez? Elle lui dit, je ne sais pas. Le bruit de la mer, la nuit, cette plage vide, elle se sent perdue. Je lui dis, des gens comme nous, qui pensons ne pas faire partie des humains, et qui prenons les humains pour des choses sans importance. Vous comprenez? Nous, il dit, nous sommes des surhommes. Alors en tant que surhommes, ça n'a aucune importance pour nous, l'espèce humaine. Vous comprenez? Il lui dit, c'est pour rire. Il lui dit, non, pour de vrai. Alors vous, il s'approche d'elle. Elle recule et se met à courir dans le sable. Il lui court après. Et pour jouer, il lui laisse un peu d'avance. Trébuche et tombe la tête la première. Elle sent un bras derrière elle. Elle sursaute, se retourne. C'est Gilles. Il lui sourit et lui dit, laissez-moi. Il lui dit, mais je vais vous laisser. Ce n'est pas à moi. Vous n'êtes pas à moi, c'est à Frédéric de le faire. Elle voit Frédéric qui se penche sur elle. Il a le sourire et lui crie, ne me faites pas mal. Frédéric lui demande, pourquoi? Elle lui dit, c'est lâche, des surhommes qui s'attaquent à une jeune fille sans défense. Vous êtes deux, c'est lâche. Gilles se retourne. Se retire. Frédéric se penche sur la fille. Tout près. Il a son visage contre le sien. Elle sent son haleine. Elle veut essayer de se dégager. Il maintient les deux mains. Puis se plaque très fortement contre elle. Elle sent son corps. Ça lui fait de l'effet malgré elle. Se plaque très fortement contre elle. Lâche les mains pour lui caresser les seins. Elle ne bouge plus. Pris par son corps, son odeur. Il lui défait le haut de sa robe. Tout d'un coup, elle entend Gilles qui dit à Frédéric, n'oublie pas que tu dois la tuer après. Et elle voit de deux lames, deux couteaux au-dessus d'elle qui brillent. Elle se met à crier. Oh, non ! Au secours ! Au secours ! De ses deux mains, qui sont libres et sont au-dessus de sa tête, elle prend du sable et les jette au visage. Ils sont aveuglés suffisamment pour qu'elle puisse se libérer et d'un bond courir, courir sur la plage. Il lui court après. Il crie. Tu là, Ottoman, elle va nous dénoncer. Vite! Essoufflé, affolé, ce n'est pas facile de courir dans le sable. Elle réussit à atteindre la route. Une voiture, elle voit une voiture qui passe à l'instant. Elle lui fait signe de s'arrêter. Quand s'est arrêtée, elle est noire, grande. Le chauffeur, un homme grand, mince, cheveux blonds, costume blanc, lui demande. Qu'est-ce que vous avez ? Elle lui dit effrayée. Laissez-moi rentrer en voiture, vite, on veut me tuer. L'homme voit les deux garçons qui arrivent vers eux. Il ouvre la portière en vitesse. Elle entre et met la voiture en route. Est-il arrivé? Elle lui dit, j'étais à une soirée. Deux jeunes m'ont proposé d'aller se promener sur la plage. Ils ont voulu me violer et pour éviter que je les dénonce, ils voulaient me tuer. J'ai réussi à m'enfuir en leur jetant du sable dans les yeux. Elle lui dit, drôle d'histoire. Je vais vous mener à la police. Elle lui dit après réflexion, non, je ne veux pas, je veux rentrer chez moi. Elle lui donne l'adresse des amis où elle loge. L'homme se dit, si elle ne veut pas aller à la police, c'est peut-être une dispute d'amoureux. Alors il ne lui pose plus de questions. Puis il se dit, il y a deux hommes, c'est peut-être le fiancé à l'allemand. Il lui demande, il est de la région? Et lui dit, nom de France, il se dit. Une Française, elles ont toujours des aventures amoureuses. Elles ont du succès, il lui dit. Brigitte Bardot, Jean Moreau, Sophie Marceau. Vous voyez, je connais une Française, moi. Je les connais. Ils arrivent devant la maison, il va arrêter la voiture devant le portail. Voilà, vous êtes arrivé. Merci, monsieur. Réfléchis, lui dit. Est-ce que vous pouvez garder tout ça pour vous? Il lui dit. Oui, bien sûr, je comprends. Moi aussi, j'ai été jeune, des disputes d'amoureux, j'en ai eu. Elle lui fait. Merci, monsieur. Elle sort de voiture. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. Il n'y a pas de bruit. La soirée doit être finie. Elle appuie sur l'interphone pour se faire ouvrir. Oui, c'est moi Florence. Bien mademoiselle, vous pouvez entrer. Elle entend des clics du portail. Elle l'a poussé et entré, va vers la maison. La porte s'ouvre, c'est la domestique, une grande femme à cheveux blancs. Elle lui fait « Bonsoir ». Elle entre. Elle lui dit, mademoiselle entre bientôt. » Elle lui dit, « Je suis fatiguée, je vais me coucher, bonne nuit. » Et elle monte à sa chambre. Une fois sa chambre, elle se déshabille. Regarde sa robe pour voir si elle n'est pas déchirée ou tachée. Non, par miracle, elle n'est pas déchirée, mais sale, très sale. Elle la fera laver chez le dégraisseur. Et puis voilà, la chose sera faite. Elle va la mettre dans son armoire. Puis, elle va à la salle de bain, prendre sa douche. Se regarde dans la glace. Vois si elle n'a pas de bleu, de griffe ou autre. Non, ça peut aller. Elle a eu malgré tout de la chance. Une fois dans sa chambre, elle se couche. Elle se dit qu'elle a échappé belle. Quelqu'un devrait porter plainte. Il y a Alexis et sa famille, ce serait terrible pour tout le monde. Et puis l'on penserait peut-être qu'elle était consentante. Et puis, partir avec des garçons comme ça, c'est pas très sérieux. Quelle idée a-t-elle eue de partir avec eux, des garçons qu'elle ne connaissait même pas? Elle est folle. Son insouciance a failli lui coûter la vie. Et ces deux petits salopards, disjonctés, cherchent à violer et tuer. C'est des fous à enfermer. Ils ont de drôles d'idées. Et puis, elle se dit, parce qu'elle repense à ce qu'elle a ressenti en les voyant tous les deux. C'est bien fait pour moi. En pensée, je n'ai pas été fidèle à Alexis. J'ai trouvé délicieux cette petite crapule. Parce qu'il avait un beau visage. Dieu m'a puni, c'est bien fait pour moi. Je ne dirai à personne ce qui s'est passé. Mais ça m'apprendra à être sérieuse. Ça me fait comprendre ce que les filles leur arrivent des choses. Mais c'est aussi parce que c'est un peu de leur faute. Elles essaient de se descendre et de ne plus penser à ces horreurs. Mais elle revient malgré elle. Elle revoit malgré elle la scène du viol et la voiture. Et tout, la tentative d'assassinat. Elle se réveille la bouche pâteuse, fatiguée et triste. tout. Elle peut se réconforter et se détendre. Aussi, elle peut penser qu'elle aime et ne pense qu'à lui. Alors, elle se lève pour aller sur son secrétaire. Et là, les larmes aux yeux. Il se dit qu'elle n'est pas digne de son amour. Lui est resté plus fidèle et la croit sérieuse. S'il savait ce qui s'est passé et surtout à quoi elle a pensé avant la chose, elle se dit qu'il serait très déçu et elle en souffrirait énormément. Alors, elle lui écrit une longue et belle lettre en pleurant, lui disant son amour, qu'elle lui manque. Et plus elle lui écrit, plus ça lui fait du bien. Alors elle écrit, bien sûr, sans lui parler de la soirée. Le temps passe, elle ne s'est même pas aperçue du temps qui passait, tellement qu'elle était dans ses pensées. Elle a entendu du bruit, elle sursaute, lève la tête et voit qu'elle est dans sa chambre. Elle se souvient, elle fait « Entrez ». C'est la bonne qui lui dit « Le petit déjeuner est prêt, mademoiselle. Bien, je descends. » La bonne se retire. Elle range ses feuilles. Et sort de sa chambre. Pour aller à la salle à manger. Entrez. Là, elle les retrouve. Ils sont déjà à table. Bonjour. La femme lui dit. Bonjour ma chérie, viens t'asseoir. Elle va s'asseoir. La bonne lui sert le café. Merci. La femme lui demande. Tu as quitté la soirée bientôt hier. Elle lui fait gêner. Oui. Tu es parti avec ce Français? Oui. Vous êtes allé où? Elle lui répond. Ils ont voulu que l'on marche sur la plage la nuit. La femme lui dit. Oh, ces jeunes gens. Tu t'es bien amusé alors? Oui. C'est très bien. Elle est gênée. Dans la journée, ils sont autour de la piscine à se reposer. La bonne vient vers eux et leur dit, on demande, madame au téléphone, elle demande, qui est-ce? Elle lui dit, c'est mademoiselle Elisabeth. Bien, j'y vais. Elle suit la bonne pour aller au salon. Prends le téléphone. Allô? C'est moi, Elisabeth. Oh, Elisabeth, comment vas-tu depuis hier au soir? Elle lui répond. Très bien. Je te téléphone. C'est pour les deux Français qui veulent revoir la jeune fille. elle aura fait un effet impressionnant et veulent la voir. Pourrais-tu lui dire de me téléphoner si elle veut les voir ? Elle dit, « Bien, je le lui dirai. Ils sont bien, ces jeunes gens ?» Elle dit, « Oui, très bien, de très bonnes familles. Bon, je te laisse. Un peu lâche, à bientôt. » Elle a raccroché. La femme retourne au bord de la piscine et dit à Florence,
il y a ces deux jeunes gens, tu sais ceux avec qui tu étais hier au soir, ils veulent te revoir.
Et toute rouge de honte, la femme lui dit,
si tu veux le revoir, tu n'as qu'à téléphoner à Charlotte pour qu'elle te mette en contact avec eux.
Florence lui dit, je ne veux pas les revoir.
Et pourquoi?
Elle lui dit gênée,
parce qu'ils ne m'intéressent pas. Ils sont très superficiels.
Elle lui dit,
ça détend les gens superficiels.
Florence se dit qu'ils ont du culot à lui courir après.
Et la journée se passe sans histoire.
Le lendemain après-midi, ils sont toujours au bord de la piscine. La borne vient vers eux et leur dit,
mademoiselle, il y a un jeune homme qui désire vous parler.
Elle lui demande gênée, car tout le monde la regarde.
Qui est-ce?
Elle lui dit,
un dénommé Gilles, un Français, très bien.
Elle est toute rouge de honte et de colère. Elle dit,
je ne veux pas voir cette personne.
La femme lui demande,
mais pourquoi, ma chérie?
Elle hausse les épaules. Elle ne sait que lui dire. La femme lui dit,
mais pourquoi, ma chérie? Ce jeune homme se déplace pour te voir et tu ne veux pas le voir?
Ce n'est pas gentil du tout.
Florence a envie de pleurer. Mais qui peut-elle faire? Dire la vérité et le scandale éclatera dans les beaux quartiers de Hollywood ou qu'elle se laisse assassiner par ces deux fous.
La femme lui dit, alors, qu'est-ce que tu fais, ma chérie?
Tu ne peux pas laisser ce garçon comme ça à la porte.
Allez le chercher, terrifiée de garlance. Elle se lève et suit la bonne. Elle va au salon. Elle lui dit,
faites venir ce jeune homme ici.
Bien, mademoiselle.
Et la bonne se retire. Elle se dit, je vais écrire à mon père. Je veux rentrer. Je ne veux pas rester ici. Je ne peux pas. Entrez. La bonne revient avec le jeune homme. Ils sont entrés. Gilles est là, habillé de blanc, le sourire aux lèvres, l'air décontracté et beau. La bonne, avant de les quitter, dit à Florence,
mademoiselle, madame aimerait c'est que vous veniez présenter ce jeune homme.
Et lui dit, effrayée,
bien, merci.
Et la bonne se retire.
Florence a les larmes aux yeux. Gilles, les mains dans les poches, lui dit « Salut ». Elle est furieuse. Les larmes aux yeux, lui dit « Vous rendez compte dans l'état où vous me mettez ?» lui demande « Mais qu'avez-vous ?» Elle lui dit « Comme si vous ne le saviez pas. Après ce qui s'est passé la nuit dernière, vous venez ici avec le culot de venir me voir en sachant que je ne pourrais pas refuser de vous recevoir. Vous vous rendez compte que je pourrais vous dénoncer ?» Il hausse ses épaules et lui dit « Ça ne vous a pas plu, cette soirée ?» Elle lui dit furieuse « Non, pas du tout !» Il lui dit « Pourtant, c'était assez réussi, excitant, cette course en voiture et le reste ?» Elle lui dit « Vous êtes complètement fou !» Il lui dit « Pourquoi ? Vous n'avez pas l'excitation, les émotions fortes ?» Elle lui dit « Non, et sûrement pas me faire violer, tuer, parce que j'ai failli me faire tuer par vous. J'ai risqué ma vie. » Il lui dit « Et nous, plus que vous ? Vous, vous avez risqué votre vie, mais nous, si on vous avait tué, vous seriez tranquille, vous ne risqueriez plus rien, vous n'auriez pas à répondre des questions, mais nous, nous aurions eu la police avec les questions et tout. » Elle lui dit, mais c'est vous qui l'aviez cherché, alors pourquoi faire des erreurs si vous avez peur des conséquences? Il lui dit, parce que vous n'aimez pas la peur, le frisson de vous faire tuer. Mais nous, nous aimons avoir la peur de nous faire prendre. Et ça dure plus longtemps que pour la victime. C'est un jeu dangereux, très dangereux. Mais qui dure plus longtemps comme plaisir. Plus que pour la victime. Vous n'avez pas à vous plaindre. Vous risquez moins que nous, mais il est vrai que votre plaisir aussi est moins long. » Elle dit furieuse, « Quel plaisir ? Le plaisir de se faire tuer ?» Il lui dit, « Oui, l'excitation de se faire tuer, l'excitation de la jouissance suprême. » Elle lui dit, « Vous dites n'importe quoi ?» Il lui dit, vous auriez dû essayer. Dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La plante du diable, production mise en scène Julien Jean-Pierre.